Chapitre second. Singulière bonne fortune. De Marsay n'était pas un étourdi. Tout autre jeune homme m'aurait obéi au désir de prendre aussitôt quelques renseignements sur une fille qui réalisait si bien les idées les plus lumineuses exprimées sur les femmes par la poésie orientale, mais trop adroit pour compromettre ainsi l'avenir de sa bonne fortune. Il avait dit à son fiacre de continuer la rue Saint-Lazare et de le ramener à son hôtel. Le lendemain, son premier valet de chambre, nommé Laurent, garçon rusé comme un frontin de l'ancienne comédie, attendit aux environs de la maison habitée par l'inconnu l'heure à laquelle se distribuaient les lettres. Afin de pouvoir espionner à son aise et rôder autour de l'hôtel, il avait, suivant la coutume des gens de police qui veulent si bien se déguiser, acheté sur la place là des frocs d'un Auvergnat en essayant d'en prendre la physionomie. Quand le facteur, qui pour cette matinée faisait le service de la rue Saint-Lazare, vint à passer, Laurent feignit d'être un commissaire en peine de se rappeler le nom d'une personne à laquelle il devait remettre un paquet et consulta le facteur. Trompé d'abord par les apparences, ce personnage si pittoresque au milieu de la civilisation parisienne lui apprit que l'hôtel où demeurait la fille aux yeux d'or appartenait à Don Hijos, marquis de San Real, grand d'Espagne. Naturellement, l'Auvergnat n'avait pas affaire au marquis. « Mon paquet, dit-il, est pour la marquise. »« Elle est absente, répondit le facteur. Ses lettres sont retournées sur Londres. »« La marquise n'est donc pas une jeune fille qui... »« Ah !» dit le facteur en interrompant le valet de chambre et le regardant avec attention. « Tu es un commissionnaire comme je danse. » Laurent montra quelques pièces au fonctionnaire à claquettes, qui se mit à sourire. « Tenez, voici le nom de votre gibier, dit-il en prenant dans sa boîte de cuir une lettre qui portait le timbre de Londres et sur laquelle cette adresse. « À Mademoiselle Paquita Valdès, rue Saint-Lazare, hôtel de San Real, Paris. » était écrite en caractère allongé et menu qui annonçait une main de femme. « Seriez-vous cruel à une bouteille de vin chablis, accompagnée d'un filet sauté aux champignons et précédée de quelques douzaines d'huîtres ?» dit Laurent qui voulait conquérir la précieuse amitié du facteur. « À 9h30 après mon service, où ?»« Au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin et de la rue Neuve-des-Mathurins, au puits sans vin, » dit Laurent. « Écoutez, l'ami, » dit le facteur en rejoignant le valet de chambre une heure après cette rencontre, « si votre maître est amoureux de cette fille, il s'inflige un fameux travail. » Je doute que vous ne réussissiez à la voir. Depuis 10 ans, je suis facteur à Paris, j'ai pu y remarquer bien des systèmes de portes. Mais je puis bien dire, sans crainte d'être démenti par aucun de mes camarades, qu'il n'y a pas une porte aussi mystérieuse que celle de M. de San Real. Personne ne peut pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais quel mot d'ordre, et remarquez qu'il a été choisi exprès entre cour et jardin pour éviter toute communication avec d'autres maisons. Le Suisse est un vieil Espagnol qui ne dit jamais un mot de français, mais qui vous dévisage les gens comme ferait Vidocq, pour savoir s'ils ne sont pas des voleurs. Si ce premier guichetier pouvait se laisser tromper par un amant, par un voleur ou par vous, sans comparaison, eh bien, vous rencontreriez dans la première salle, qui est fermée par une porte vitrée, un majordome entouré de laquais, un vieux farceur encore plus sauvage et plus bourru que ne l'est le Suisse. Si quelqu'un franchit la porte cochère, mon majordome sort, vous attend sous le péristyle et te lui fait subir un interrogatoire comme un criminel. Ça m'est arrivé à moi, simple facteur. Il me prenait pour un hémisphère déguisé, dit-il en riant de son coq à l'âne. Quant aux gens, n'en espérez rien tirer. Je les crois muets. Personne dans le quartier ne connaît la couleur de leurs paroles. Je ne sais pas ce qu'on leur donne de gage pour ne point parler et pour ne point boire. Le fait est qu'ils sont inabordables, soit qu'ils aient peur d'être fusillés, soit qu'ils aient une somme énorme à perdre en cas d'indiscrétion. Si votre maître aime assez Mademoiselle Paquita Valdès pour surmonter tous ces obstacles, il ne triomphera certes pas de Donna Concha Marialva, la duègne qui l'accompagne et qui la mettrait sous ses jupes plutôt que de la quitter. Ces deux femmes ont l'air d'être cousues ensemble. Ce que vous me dites, « estimable facteur, reprit Laurent, après avoir dégusté le vin, me confirme ce que je viens d'apprendre. Foi d'honnête homme, j'ai cru que l'on se moquait de moi. La fruitière d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit dans le jardin des chiens dont la nourriture est suspendue à des poteaux de manière qu'ils ne puissent pas y atteindre. Ces damnés animaux croient alors que les gens susceptibles d'entrer en veulent à leur manger et les mettraient en pièces. Vous me direz qu'on peut leur jeter des boulettes, mais il apparaît qu'ils sont dressés à ne rien manger que de la main du concierge. Le portier de monsieur le baron de Nucingen, dont le journal touche par en haut à celui de l'hôtel San Réal, me l'a dit effectivement, reprit le facteur. Bon, mon maître le connaît, se dit Laurent. Savez-vous, reprit-il, en guignant le facteur, que j'appartiens à un maître qui est un fier homme, et s'il se mettait en tête de baiser la plante des pieds d'une impératrice, il faudrait bien qu'elle en passât par là. S'il avait besoin de vous, ce que je vous souhaite, car il est généreux, pourrait-on compter sur vous? Dame, monsieur Laurent, je me nomme Moineau. Mon nom s'écrit absolument comme un moineau. Moinot. Not, Moineau. Effectivement, dit Laurent. Je demeure rue des Trois Frères, numéro 11, au cinquième, reprit Moineau. J'ai une femme et quatre enfants. Si ce que vous voudrez de moi ne dépasse pas les possibilités de la conscience et mes devoirs administratifs, vous comprenez, je suis le vôtre. Vous êtes un brave homme, lui dit Laurent en lui serrant la main. Paquita Valdès est sans doute la maîtresse du marquis de San Réal, l'ami du roi Ferdinand. Un vieux cadavre espagnol de 80 ans est seul capable de prendre des précautions semblables, dit Henri, quand son valet de chambre lui eut raconté le résultat de ses recherches. Monsieur, lui dit Laurent, à moins d'y arriver en ballon, personne ne peut entrer dans cet hôtel-là. Tu es une bête. Est-il donc nécessaire d'entrer dans un hôtel pour avoir Paquita, du moment où Paquita peut en sortir? Mais monsieur, et la duègne? On la chambrera pour quelques jours, ta duègne. Alors nous aurons Paquita, dit Laurent en se frottant les mains. Drôle, répondit Henri, je te condamne à la concha si tu pousses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une femme avant que je ne l'aie eue. Pense à m'habiller, je vais sortir. Henri resta pendant un moment plongé dans de joyeuses réflexions. Disons-le à la louange des femmes, il obtenait toutes celles qu'il daignait désirer. Et que faudrait-il donc penser d'une femme sans amant, qui aurait su résister à un jeune homme armé de la beauté, qui est l'esprit du corps, armé de l'esprit, qui est une grâce de l'âme, armé de la force mentale et de la fortune, qui sont toutes deux puissances réelles? Mais en triomphant aussi facilement, de Marsay devait s'ennuyer de ses triomphes. Aussi, depuis environ 2 ans, s'ennuyait-il beaucoup. En plongeant au fond des voluptés, il en rapportait plus de gravier que de perles. Donc il en était venu, comme les souverains, à implorer du hasard quelque obstacle à vaincre, quelque entreprise qui demandât le déploiement de ses forces morales et physiques inactives. Quoique Paquita Valdès lui présentât le merveilleux assemblage des perfections dont il n'avait encore joui qu'en détail, l'attrait de la passion était presque nul chez lui. Une satiété constante avait affaibli dans son cœur le sentiment de l'amour. Comme les vieillards et les gens blasés, il n'avait plus que des caprices extravagants, des goûts ruineux, des fantaisies qui, satisfaites, ne lui laissaient aucun bon souvenir au cœur. Chez les jeunes gens, l'amour est le plus beau des sentiments. Il fait fleurir la vie dans l'âme. Il épanouit par sa puissance solaire les plus belles inspirations et leurs grandes pensées. Les prémices en toutes choses ont une délicieuse saveur. Chez les hommes, l'amour devient une passion. La force mène à l'abus. Chez les vieillards, il se tourne au vice. L'impuissance conduit à l'extrême. Henri était à la fois vieillard, homme et jeune. Pour lui rendre les émotions d'un véritable amour, il lui fallait, comme à Lovelace, une Clarisse Harlowe. Sans le reflet magique de cette perle introuvable, il ne pouvait plus avoir que soit des passions aiguisées par quelque vanité parisienne, soit des partis pris avec lui-même de faire arriver telle femme à tel degré de corruption, soit des aventures qui stimulassent sa curiosité. Le rapport de Laurent, son valet de chambre, venait de donner un prix énorme à la fille aux yeux d'or. Il s'agissait de livrer bataille à quelque ennemi secret qui paraissait aussi dangereux qu'habile. Et pour remporter la victoire, toutes les forces dont Henri pouvait disposer n'étaient pas inutiles. Il allait jouer cette éternelle vieille comédie qui sera toujours neuve et dont les personnages sont un vieillard, une jeune fille et un amoureux, Don Hijos, Paquita, de Marsay. Si Laurent valait Figaro, la duègne paraissait incorruptible. Ainsi, la pièce vivante était plus fortement nouée par le hasard qu'elle ne l'avait jamais été par aucun auteur dramatique. Mais aussi, le hasard n'était-il pas un homme de génie? Il va falloir jouer serré, se dit Henri. Eh bien, lui dit Paul de Manerville en entrant, où en sommes-nous? Je viens déjeuner avec toi. Soit, dit Henri. Tu ne te choqueras pas si je fais ma toilette devant toi. Quelle plaisanterie! Nous prenons tant de choses des Anglais en ce moment que nous pourrions devenir hypocrites et prudes comme eux, dit Henri. Laurent avait apporté devant son maître tant d'ustensiles, tant de meubles différents et de si jolies choses que Paul ne put s'empêcher de dire. Mais tu vas en avoir pour 2 heures. Non, dit Henri, 2 heures et demie. Eh bien, puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons tout nous dire, explique-moi pourquoi un homme supérieur autant que tu l'es, car tu es supérieur, affecte d'outrer une fatuité qui ne doit pas être naturelle en lui. Pourquoi passer 2 heures et demie à s'étriller quand il suffit d'un quart d'heure dans un bain de se peigner en deux temps et de se vêtir? Là, dis-moi ton système. Il faut que je t'aime bien, mon gros balourd, pour te confier de si hautes pensées, dit le jeune homme qui se faisait en ce moment brosser les pieds avec une brosse douce frottée de savon anglais. Mais je t'ai voué le plus sincère attachement, répondit Paul de Manerville. Et je t'aime en te trouvant supérieur à moi. Tu as dû remarquer, si toutefois tu es capable d'observer un fait moral, que la femme aime le fat, reprit de Marsay, sans répondre autrement que par un regard à la déclaration de Paul. Sais-tu pourquoi les femmes aiment les fats? Mon ami, les fats sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes. Or, avoir trop soin de soi, n'est-ce pas dire qu'on soigne en soi-même le bien d'autrui? L'homme qui ne s'appartient pas est précisément l'homme dont les femmes sont friandes. L'amour est essentiellement voleur. Je ne te parle pas de cet excès de propreté dont elle raffole. Trouves-en une qui se soit passionnée pour un sans-soin, fût-ce un homme remarquable. Si le fait a lieu, nous devons le mettre sur le compte des envies de femmes grosses, ces idées folles qui passent par la tête à tout le monde. Au contraire, j'ai vu des gens fort remarquables plantés net pour cause de leur incurie. Un fat qui s'occupe de sa personne s'occupe d'une niaiserie, de petites choses. Et qu'est-ce que la femme? Une petite chose, un ensemble de niaiseries. Avec 2 mots dits en l'air, ne la fait-on pas travailler pendant 4 heures? Elle est sûre que le fat s'occupera d'elle, puisqu'il ne pense pas à de grandes choses. Elle ne sera négligée pour la gloire, l'ambition, la politique, l'art, ces grandes filles publiques qui, pour elle, sont des rivales, puis les fats ont le courage de se couvrir de ridicule pour plaire à la femme, et son cœur est plein de récompenses pour l'homme ridicule par amour. Enfin, un fat ne peut être fat que s'il a quelque raison de l'être. C'est les femmes qui nous donnent ce grade-là. Le fat est le colonel de l'amour. Il a de bonnes fortunes, il a son régiment de femmes à commander. Mon cher, à Paris, tout se sait, et un homme ne peut y être fat gratis. Toi qui n'as qu'une femme, mais qui peut-être as raison de n'en avoir qu'une, essaie de faire le fat. Tu ne deviendras même pas ridicule, tu seras mort. Tu deviendras un préjugé à 2 pattes, un de ces hommes condamnés inévitablement à faire une seule et même chose. Tu signifierais sottise, comme Monsieur de Lafayette signifie Amérique, Monsieur de Talleyrand diplomatie, des Augier chansons, Monsieur de Ségur romance. S'ils sortent de leur genre, on ne croit plus à la valeur de ce qu'ils sont. Voilà comme nous sommes en France, toujours souverainement injustes. Monsieur de Talleyrand est peut-être un grand financier, Monsieur de Lafayette un tyran, et des Augier un administrateur. Tu auras 40 femmes l'année suivante, on ne t'en accordera pas publiquement une seule. Ainsi donc la fatuité, mon ami Paul, est le signe d'un incontestable pouvoir conquis sur le peuple femelle. Un homme aimé par plusieurs femmes passe pour avoir des qualités supérieures. Et alors c'est à qui l'aura, le malheureux. Mais crois-tu que ce ne soit rien aussi que d'avoir le droit d'arriver dans un salon d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate ou à travers un lorgnon, et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré? Laurent, tu me fais mal. Après déjeuner, Paul, nous irons aux Tuileries, voir l'adorable fille aux yeux d'or. Quand, après avoir fait un excellent repas, les deux jeunes gens eurent arpenté la terrasse des Feuillants et la grande allée des Tuileries, ils ne rencontrèrent nulle part la sublime Paquita Valdès, pour le compte de laquelle se trouvaient 50 des plus élégants jeunes gens de Paris, tous musqués, haut cravatés, bottés, éperonnaillés, cravachant, marchant, parlant, riant, et se donnant à tous les diables. « Messe Blanche, dit Henri, mais il m'est venu la plus excellente idée du monde. Cette fille reçoit des lettres de Londres. Il faut acheter ou griser le facteur, décacheter une lettre, naturellement la lire, y glisser un petit billet doux et la recacheter. Le vieux tyran cruel, cruel tyranno, doit sans doute connaître la personne qui écrit les lettres venant de Londres et ne s'en défie plus. » Le lendemain, de Marsay vint encore se promener au soleil sur la terrasse des Feuillants et y vit Paquita Valdès. Déjà pour lui, la passion l'avait embellie. Il s'affola sérieusement de ses yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ceux que lance le soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait où tout était volupté. De Marsay brûlait de frôler la robe de cette séduisante fille quand ils se rencontreraient dans leur promenade. Mais ses tentatives étaient toujours vaines. En un moment où il avait dépassé la duègne et Paquita pour pouvoir se trouver du côté de la fille aux yeux d'or quand il se retournerait, Paquita, non moins impatiente, s'avança vivement, et de Marsay se sentit presser la main par elle d'une façon tout à la fois si rapide et si passionnément significative qu'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle électrique. En un instant, toutes ses émotions de jeunesse lui sourdirent au cœur. Quand les deux amants se regardèrent, Paquita parut honteuse. Elle baissa les yeux pour ne pas revoir les yeux d'Henri, mais son regard se coula par en dessous pour regarder les pieds et la taille de celui que les femmes nommaient avant la Révolution leur vainqueur. J'aurai décidément cette fille pour maîtresse, se dit Henri. En la suivant au bout de la terrasse du côté de la place Louis XV, il aperçut le vieux marquis de San Réal qui se promenait, appuyé sur le bras de son valet de chambre, en marchant avec toute la précaution d'un goutteux et d'un cacochyme. Donna Concha, qui se défiait d'Henri, fit passer Paquita entre elle et le vieillard. « Oh, toi !» se dit de Marsay en jetant un regard de mépris sur la duègne. « Si l'on ne peut pas te faire capituler avec un peu d'opium, l'on t'endormira. Nous connaissons la mythologie et la fable d'Argus. » Avant de monter en voiture, la fille aux yeux d'or échangea avec son amant quelques regards dont l'expression n'était pas douteuse et dont Henri fut ravi. Mais la duègne en surprit un et dit vivement quelques mots à Paquita qui se jeta dans le coupé d'un air désespéré. Pendant quelques jours, Paquita ne vint plus aux Tuileries. Laurent, qui, par ordre de son maître, alla faire le guet autour de l'hôtel, apprit par les voisins que ni les deux femmes ni le vieux marquis n'était sorti depuis le jour où la duègne avait surpris un regard entre la jeune fille commise à sa garde et Henri. Le lien si faible qui unissait les deux amants était donc déjà rompu. Quelques jours après, sans que personne sût par quels moyens, de Marsay était arrivé à son but. Il avait un cachet de la cire absolument semblable au cachet et à la cire que cachetaient les lettres envoyées de Londres à Mademoiselle Valdès, du papier pareil à celui dont se servaient les correspondants, puis tous les ustensiles et les fers nécessaires pour y apposer les timbres de poste anglaises et françaises. Il avait écrit la lettre suivante, à laquelle il donna toutes les façons d'une lettre envoyée de Londres. Chère Paquita, je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspirée. Si, pour mon bonheur, vous la partagez, sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous. Je me nomme Adolphe de Gouges et demeure rue de l'Université, numéro 54. Si vous êtes trop surveillé pour m'écrire, si vous n'avez ni papier ni plume, je le saurai par votre silence. Donc, si demain, de 8 heures du matin à 10 heures du soir, vous n'avez pas jeté de lettres par-dessus le mur de votre jardin dans celui du baron de Nucingen, où l'on attendra patiemment toute la journée. Un homme qui m'est entièrement dévoué vous glissera par-dessus le mur au bout d'une corde deux flacons à 10 heures du matin le lendemain. Soyez à vous promener vers ce moment-là. L'un des deux flacons contiendra de l'opium pour endormir votre Argus. Il suffira de lui en donner 6 gouttes. L'autre contiendra de l'encre. Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est uni. Tous les deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset. Tout ce que j'ai déjà fait pour pouvoir correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime. Si vous en doutiez, je vous avoue que pour obtenir un rendez-vous d'une heure, je donnerais ma vie. Elles croient cela pourtant, ces pauvres créatures, se dit de Marsay. Mais elles ont raison. Que penserions-nous d'une femme qui ne se laisserait pas séduire par une lettre d'amour accompagnée de circonstances si probantes? Cette lettre fut remise par le sieur Moineau, facteur, le lendemain, vers 8 heures du matin, au concierge de l'hôtel San Réal. Pour se rapprocher du champ de bataille, de Marsay était venu déjeuner chez Paul. Il demeurait rue de Pépinière. À 2 heures, au moment où les deux amis se contaient en riant la déconfiture d'un jeune homme qui avait voulu mener le train de la vie élégante sans une fortune assise, et qu'il lui cherchait une fin, le cocher d'Henri vint chercher son maître jusque chez Paul et lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même. Ce personnage était un mulâtre dont Talma se serait certes inspiré pour jouer Othello s'il l'avait rencontré. Jamais figure africaine n'exprima mieux la grandeur dans la vengeance, la rapidité du soupçon, la promptitude dans l'exécution d'une pensée, la force du mort et son irréflexion d'enfant. Ses yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de proie, et ils étaient enchâssés, comme ceux d'un vautour, par une membrane bleue dénuée de cils. Son front, petit et bas, avait quelque chose de menaçant. Évidemment, cet homme était sous le joug d'une seule et même pensée. Son bras nerveux ne lui appartenait pas. Il était suivi d'un homme que toutes les indignations, depuis celles qui grelottent au Groenland jusque celles qui suent à la Nouvelle-Angleterre, se peindront d'après cette phrase. C'était un homme malheureux. À ce mot, tout le monde le devinera, se le représentera d'après les idées particulières à chaque pays. Mais qui se figurera son visage blanc, ridé, rouge aux extrémités et sa barbe longue? Qui verra sa cravate jaunasse en corde, son col de chemise gras, son chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son pantalon piteux, son gilet recroquevillé, son épingle en faux or, ses souliers crottés dont les rubans avaient barboté dans la boue? Qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée? Qui? Le Parisien seulement. L'homme malheureux de Paris est l'homme malheureux complet, car il trouve encore de la joie pour savoir combien il est malheureux. Le mulâtre semblait être un bourreau de Louis XI tenant un homme à pendre. Qu'est-ce qui nous a pêchés, ces deux drôles-là? Dit Henri. Pantoufle, il y en a un qui me donne le frisson, répondit Paul. Qui es-tu, toi, qui as l'air d'être le plus chrétien des deux? Dit Henri en regardant l'homme malheureux. Le mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux jeunes gens, en homme qui n'entendait rien et qui cherchait néanmoins à deviner quelque chose d'après les gestes et le mouvement des lèvres. Je suis écrivain public et interprète. Je demeure au palais de justice et me nomme Poincet. Bon, et celui-là? Dit Henri à Poincet en montrant le mulâtre. Je ne sais pas, il ne parle qu'une espèce de patois espagnol et m'a emmené ici pour pouvoir s'entendre avec vous. Le mulâtre tira de sa poche la lettre écrite à Paquita par Henri et la lui remit. Henri la jeta dans le feu. Eh bien, voilà qui commence à se dessiner, se dit en lui-même Henri. Paul, laisse-nous seul un moment. Je lui ai traduit cette lettre, reprit l'interprète lorsqu'ils furent seuls. Quand elle fut traduite, elle a été je ne sais où, mais il est revenu me chercher pour m'amener ici en me promettant 2 louis. Qu'as-tu à me dire, chinois? Demanda Henri. Je ne lui ai pas dit chinois, dit l'interprète, en attendant la réponse du mulâtre. Il dit, monsieur, reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu, qu'il faut que vous vous trouviez demain soir à 10 h 30 sur le boulevard Montmartre, auprès du café. Vous y verrez une voiture dans laquelle vous monterez en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la porte le mot cortège, un mot espagnol qui veut dire amant, ajouta Poincet en jetant un regard de félicitations à Henri. Bien. Le mulâtre voulut donner 2 louis, mais de Marsay ne le souffrit pas et récompensa l'interprète. Pendant qu'il le payait, le mulâtre proféra quelques paroles. Que dit-il? Il me prévient, répondit l'homme malheureux, que si je fais une seule indiscrétion, il m'étranglera. Il est gentil, et il a très fort l'air d'en être capable. J'en suis sûr, répondit Henri, il le ferait comme il dit. Il ajoute, reprit l'interprète, que la personne dont il est l'envoyé vous supplie, pour vous et pour elle, de mettre la plus grande prudence dans vos actions, parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs sans qu'aucune puissance humaine pût vous en garantir. Il a dit cela. Tant mieux, ce sera plus amusant. Mais tu peux entrer, Paul, cria-t-il à son ami. Le mulâtre, qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de Paquita Valdès avec une attention magnétique, s'en alla suivi de l'interprète. Enfin, voici donc une aventure bien romanesque, se dit Henri quand Paul revint. À force de participer à quelques-unes, j'ai fini par rencontrer dans ce Paris une intrigue accompagnée de circonstances graves de périls majeurs. Ah, diantre, combien le danger rend la femme hardie! Gêner une femme, la vouloir contraindre, n'est-ce pas lui donner le droit et le courage de franchir en un moment des barrières qu'elle mettrait des années à sauter? Gentille créature, va, saute. Mourir? Pauvre enfant, des poignards? Imagination de femme! Elles sentent toutes le besoin de faire valoir leurs petites plaisanteries. D'ailleurs, on y pensera, Paquita, quand on y pensera, ma fille. Le diable m'emporte, maintenant que je sais que cette belle fille, ce chef-d'œuvre de la nature, est à moi. L'aventure a perdu de son piquant. Malgré cette parole légère, le jeune homme avait reparu chez Henri. Pour attendre jusqu'au lendemain, sans souffrance, il eut recours à d'exorbitants plaisirs. Il joua, dîna, soupa avec ses amis. Il but comme un fiacre, mangea comme un Allemand et gagna 10 ou 12 000 francs. Il sortit du rocher de Cancale à 2 h du matin, dormit comme un enfant, se réveilla le lendemain frais et rose, et s'habilla pour aller aux Tuileries en se proposant de monter à cheval après avoir vu Paquita pour gagner de l'appétit et mieux dîner afin de pouvoir brûler le temps. À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture et donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la portière et déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait, qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère. Cet escalier était sombre, aussi bien que le palier sur lequel Henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'un appartement humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre lui parurent vides et mal meublées, comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage. Il reconnut cette sensation que lui procurait la lecture d'un de ses romans d'Anne Radcliffe, où le héros traverse les salles froides, sombres, inhabitées de quelque lieu triste et désert. Enfin, le mulâtre ouvrit la porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. C'était la même prétention à l'élégance et le même assemblage de choses de mauvais goût, de poussière et de crasse. Sur un canapé couvert en velours d'Utrecht rouge, au coin d'une cheminée qui fumait, et dont le feu était enterré dans les cendres, se tenait une vieille femme, assez mal vêtue, coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge, et qui auraient infiniment de succès en Chine, où le beau idéal des artistes est la monstruosité. Ce salon, cette vieille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l'amour si Paquita n'avait pas été là, sur une causeuse, dans un voluptueux peignoir, libre de jeter ses regards d'or et de flamme, libre de montrer son pied recourbé, libre de ses mouvements lumineux. Cette première entrevue fut ce que sont les premiers rendez-vous que se donnent des personnes passionnées qui ont rapidement franchi les distances et qui se désirent ardemment, sans néanmoins se connaître. Il est impossible qu'ils ne se rencontrent pas d'abord quelques discordances dans cette situation, gênante jusqu'au moment où les âmes se sont mises au même ton. Si le désir donne de la hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien ménager sous peine de ne pas être femme, la maîtresse, quelque extrême que soit son amour, est effrayée de se trouver si promptement arrivée au but et face à face avec la nécessité de se donner, qui, pour beaucoup de femmes, équivaut à une chute dans un abîme, au fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles trouveront. La froideur involontaire de cette femme contraste avec sa passion avouée et réagit nécessairement sur l'amant le plus épris. Ses idées, qui souvent flottent comme des vapeurs à l'alentour des âmes, y déterminent donc une sorte de maladie passagère. Dans le doux voyage que deux êtres entreprennent à travers les belles contrées de l'amour, ce moment est comme une lande à traverser, une lande sans bruyère, alternativement humide et chaude, pleine de sables ardents, coupée par des marais, et qui mène aux riants bocages vêtus de roses où se déploient l'amour et son cortège de plaisirs sur des tapis de fine verdure. Souvent, l'homme spirituel se trouve doué d'un rire bête qui lui sert de réponse à tout. Son esprit est comme engourdi sous la glaciale compression de ses désirs. Il ne serait pas impossible que deux êtres également beaux, spirituels et passionnés, parlassent d'abord des lieux communs les plus niais jusqu'à ce que le hasard, un mot, le tremblement d'un certain regard, la communication d'une étincelle leur aient fait rencontrer l'heureuse transition qui les amène dans le sentier fleuri où l'on ne marche pas, mais où l'on roule sans néanmoins descendre. Cet état de l'âme est toujours en raison de la violence des sentiments. Deux êtres qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de pareil. L'effet de cette crise peut encore se comparer à celui que produit l'ardeur d'un ciel pur. La nature semble au premier aspect couverte d'un voile de gaze. L'azur du firmament paraît noir. L'extrême lumière ressemble aux ténèbres. Chez Henri, comme chez l'Espagnol, il se rencontrait une égale violence. Et cette loi de la statique, en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant, pourrait être vraie aussi dans le règne moral. Puis l'embarras de ce moment fut singulièrement augmenté par la présence de la vieille momie. L'amour s'effraie ou s'égaie de tout. Pour lui, tout a un sens. Tout lui est présage heureux ou funeste. Cette femme décrépite était là, comme un dénouement possible, et figurait l'heureuse queue de poisson par laquelle les symboliques génies de la Grèce ont terminé les chimères et les sirènes si séduisantes, si décevantes par le corsage, comme le sont toutes les passions au début. Quoique Henri fût, non pas un esprit fort, ce mot est toujours une raillerie, mais un homme d'une puissance extraordinaire, un homme aussi grand qu'on peut l'être sans croyance, l'ensemble de toutes ces circonstances le frappa. D'ailleurs, les hommes les plus forts sont naturellement les plus impressionnés et conséquemment les plus superstitieux. Si toutefois, l'on peut appeler superstition le préjugé du premier mouvement, qui sans doute est l'aperçu du résultat dans les causes cachées à d'autres yeux, mais perceptibles aux leurs. L'Espagnol profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie qui saisit le cœur d'une femme quand elle aime véritablement et qu'elle se trouve en présence d'une idole vainement espérée. Ses yeux étaient toute joie, tout bonheur, et il s'en échappait des étincelles. Elle était sous le charme, et s'enivrait sans crainte d'une félicité longuement rêvée. Elle parut alors si merveilleusement belle à Henri, que toute cette fantasmagorie de haillons, de vieillesse, de draperies rouges usées, de paillassons verts devant les fauteuils, que le carreau rouge mal frotté, que tout ce luxe infirme et souffrant disparut aussitôt. Le salon s'illumina. Il ne vit plus qu'à travers un nuage la terrible harpie, fixe, muette sur son canapé rouge, et dont les yeux jaunes trahissaient les sentiments serviles que le malheur inspire, ou cause un vice sous l'esclavage duquel on est tombé, comme sous un tyran qui vous abrutit, sous les flagellations de son despotisme. Ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage qui sait son impuissance et se trouve obligé de dévorer ses envies de destruction. « Quelle est cette femme ?» dit Henri à Paquita. Mais Paquita ne répondit pas. Elle fit signe qu'elle n'entendait pas le français et demanda à Henri s'il parlait anglais. De Marsay répéta sa question en anglais.
« C'est la seule femme à laquelle je puisse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue, » dit Paquita tranquillement. « Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa rare beauté, mais dont il ne reste peu de choses aujourd'hui. Elle ne parle que sa langue maternelle. »
L'attitude de cette femme et son envie de deviner par les mouvements de sa fille et d'Henri ce qui se passait entre eux furent expliquées soudain au jeune homme que cette explication mit à l'aise.
« Paquita, lui dit-il, nous ne serons donc pas libres ?»«
Jamais, dit-elle d'un air triste, nous avons même peu de jours à nous. »
Elle baissa les yeux, regarda sa main, et compta de sa main droite sur les doigts de sa main gauche, en montrant ainsi les plus belles mains qu'Henri eût jamais vues.
« 1, 2, 3 ?»
Et elle compta jusqu'à 12.
« Oui, dit-elle, nous avons 12 jours. »«
Et après ?»«
Après, dit-elle, en restant absorbée comme une femme faible devant la hache du bourreau, et tuée d'avance par une crainte qui la dépouillait de cette magnifique énergie que la nature semblait ne lui avoir départie que pour agrandir les voluptés et pour convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers.
« Après, répéta-t-elle,
ses yeux devinrent fixes. Elle parut contempler un objet éloigné, menaçant.
« Je ne sais pas, dit-elle.
« Cette fille est folle, se dit Henri, qui tomba lui-même en des réflexions étranges. Paquita lui parut occupée de quelque chose qui n'était pas lui, comme une femme également contrainte et par le remords, et par la passion. Peut-être avait-elle dans le cœur un autre amour qu'elle oubliait et se rappelait tour à tour. En un moment, Henri fut assailli de 1000 pensées contradictoires. Pour lui, cette fille devint un mystère, mais, en la contemplant avec la savante attention de l'homme blasé, affamé de voluptés nouvelles, comme ce roi d'Orient qui demandait qu'on lui créât un plaisir, soif horrible dont les grandes âmes sont saisies, Henri reconnaissait dans Paquita la plus riche organisation que la nature se fût complue à composer pour l'amour. Le jeu présumé de cette machine, l'âme mise à part, eût effrayé tout autre homme que de Marsay. Mais il fut fasciné par cette riche moisson de plaisirs promis, par cette constante variété dans le bonheur, le rêve de tout homme, et que toute femme aimante ambitionne aussi. Il fut affolé par l'infini rendu palpable et transporté dans les plus excessives jouissances de la créature. Il vit tout cela dans cette fille plus distinctement qu'il ne l'avait encore vue. Car elle se laissait complaisamment voir, heureuse d'être admirée. L'admiration de De Marsay devint une rage secrète, et il la dévoila tout entière en lançant un regard que comprit l'Espagnol, comme si elle était habituée à en recevoir de semblables.
Si tu ne devais pas être à moi seul, je te tuerais, s'écria-t-il.
En entendant ce mot, Paquita se voila le visage de ses mains et s'écria naïvement.
Sainte Vierge, où me suis-je fourrée?
Elle se leva, s'alla jeter sur le canapé rouge, se plongea la tête dans les haillons qui couvraient le sein de sa mère, et y pleura. La vieille reçut sa fille sans sortir de son immobilité, sans lui rien témoigner. La mère possédait au plus haut degré cette gravité des peuplades sauvages, cette impassibilité de la statuaire sur laquelle échoue l'observation. Aimait-elle, n'aimait-elle pas sa fille? Nulle réponse. Sous ce masque couvaient tous les sentiments humains, les bons et les mauvais, et l'on pouvait tout attendre de cette créature. Son regard allait lentement des beaux cheveux de sa fille, qui la couvraient comme d'une mantille, à la figure d'Henri,
qu'elle observait avec une inexprimable curiosité. Elle semblait se demander par quel sortilège il était là, par quel caprice la nature avait fait un homme si séduisant.
« Ces femmes se moquent de moi !» se dit Henri.
En ce moment, Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ces regards qui vont jusqu'à l'âme et la brûlent. Elle lui parut si belle qu'il se jura de posséder ce trésor de beauté.
« Ma Paquita, sois à moi !»«
Tu veux me tuer ?» dit-elle peureuse, palpitante, inquiète, mais ramenée à lui par une force inexplicable.
« Te tuer, moi ?» dit-il en souriant.
Paquita jeta un cri d'effroi, dit un mot à la vieille qui prit d'autorité la main de Henri, celle de sa fille, les regarda longtemps, les leur rendit en hochant la tête d'une façon horriblement significative.
« Sois à moi ce soir, à l'instant. Suis-moi, ne me quitte pas, je le veux, Paquita. Même tu, viens !»
En un moment, il lui dit mille paroles insensées. Avec la rapidité d'un torrent qui bondit entre des rochers, et répète le même son sous mille formes différentes.
« C'est la même voix !»
dit Paquita mélancoliquement, sans que de Marsay pût l'entendre, et
« La même ardeur !» ajouta-t-elle.
« Eh bien, oui, » dit-elle, avec un abandon de passion que rien ne saurait exprimer.
« Oui, mais pas ce soir. Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à la Concha. Elle pourrait se réveiller. Je serais perdu. En ce moment, toute la maison me croit endormie dans ma chambre. Dans 2 jours, soit au même endroit, dit le même mot au même homme. Cet homme est mon père nourricier. Christemio m'adore. » et mourrait pour moi dans les tourments sans qu'on lui arrachât une parole contre moi. « Adieu !» dit-elle en saisissant Henri par le corps et s'entortillant autour de lui comme un serpent.
Elle le pressa de tous les côtés à la fois, lui apporta sa tête sous la sienne, lui présenta ses lèvres, et prit un baiser qui leur donna de tels vertiges à tous deux que de Marsay crut que la terre s'ouvrait et que Paquita cria « Va-t'en !» d'une voix qui annonçait assez combien elle était peu maîtresse d'elle-même. Mais elle le garda tout en lui criant toujours « Va-t'en !» et le mena lentement jusqu'à l'escalier. Là, le mulâtre, dont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita, prit le flambeau des mains de son idole et conduisit Henri jusqu'à la rue. Il laissa le flambeau sous la voûte, ouvrit la portière, remit Henri dans la voiture et le déposa sur le boulevard des Italiens avec une rapidité merveilleuse. Les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le corps. Cette scène fut comme un songe pour de Marsay, mais un de ces songes qui, tout en s'évanouissant, laissent dans l'âme un sentiment de volupté surnaturelle après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie. Un seul baiser avait suffi. Aucun rendez-vous ne s'était passé d'une manière plus décente, ni plus chaste, ni plus froide peut-être, dans un lieu plus horrible, par les détails devant une plus hideuse divinité. Car cette mère était restée dans l'imagination d'Henri comme quelque chose d'infernal, d'accroupi, de cadavéreux, de vicieux, de savamment féroce, que la fantaisie des peintres et des poètes n'avait pas encore deviné. En effet, jamais rendez-vous n'avait plus irrité ses sens, n'avait relevé de volupté plus hardie, n'avait mieux fait jaillir l'amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d'un homme. Ce fut quelque chose de sombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de contraint et d'expansif. Un accouplement de l'horrible et du céleste, du paradis et de l'enfer, qui rendit de Marsay comme ivre. Il ne fut plus lui-même, il était assez grand cependant pour pouvoir résister aux enivrements du plaisir. Pour bien comprendre sa conduite au dénouement de cette histoire, il est nécessaire d'expliquer comment son âme s'était élargie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent ordinairement, ou en s'en occupant trop. Il avait grandi par un concours de circonstances secrètes qu'il investissait d'un immense pouvoir inconnu. Ce jeune homme avait en main un sceptre plus puissant que ne l'est celui des rois modernes, presque tous bridés par les lois dans leur moindre volupté. De Marsay exerçait le pouvoir autocratique du despote oriental. Mais ce pouvoir, si stupidement mis en œuvre dans l'Asie par des hommes abrutis, était décuplé par l'intelligence européenne, par l'esprit français, le plus vif, le plus acéré de tous les instruments intelligentiels. Henri pouvait ce qu'il voulait dans l'intérêt de ses plaisirs et de ses vanités. Cette invisible action sur le monde social l'avait revêtu d'une majesté réelle, mais secrète, sans emphase et repliée sur lui-même. Il avait de lui, non pas l'opinion que Louis XIV pouvait avoir de soi, mais celle que le plus orgueilleux des califes, des pharaons, des Xerxès qui se croyaient de race divine, avaient d'eux-mêmes quand ils imitaient Dieu en se voilant à leur sujet sous prétexte que leur regard donnait la mort. Ainsi, sans avoir aucun remords d'être à la fois juge et parti, de Marsay condamnait froidement à mort l'homme ou la femme qu'il avait offensé sérieusement. Quoique souvent prononcé presque légèrement, l'arrêt était irrévocable. Une erreur était un malheur semblable à celui que cause la foudre en tombant sur une Parisienne heureuse dans quelque fiacre, au lieu d'écraser le vieux cocher qui la conduit à un rendez-vous. Aussi, la plaisanterie amère et profonde qui distinguait la conversation de ce jeune homme causait-elle assez généralement de l'effroi. Personne ne se sentait l'envie de le choquer. Les femmes aiment prodigieusement ces gens qui se nomment Pacha, eux-mêmes, qui semblent accompagnés de lions, de bourreaux, et marchent dans un appareil de terreur. Il en résulte chez ces hommes une sécurité d'action, une certitude de pouvoir, une fierté de regard, une conscience léonine qui réalise pour les femmes le type de force qu'elles rêvent toutes. Ainsi était de Marsay. Heureux en ce moment de son avenir, il redevint jeune et flexible, et ne songeait qu'à aimer en allant se coucher. Il rêva de la fille aux yeux d'or, comme rêvent les jeunes gens passionnés. Ce fut des images monstrueuses, des bizarreries insaisissables, pleines de lumière, et qui révèlent les mondes invisibles, mais d'une manière toujours incomplète, car un voile interposé change les conditions de l'optique. Le lendemain et le surlendemain, il disparut sans que l'on pût savoir où il était allé. Sa puissance ne lui appartenait qu'à de certaines conditions, et heureusement pour lui, pendant ces 2 jours, il fut simple soldat au service du démon dont il tenait sa talismanique existence. Mais à l'heure dite, le soir, sur le boulevard, il attendit la voiture qui ne se fit pas attendre. Le mulâtre s'approcha d'Henri pour lui dire en français une phrase qu'il paraissait avoir apprise par cœur. « Si vous voulez venir, m'a-t-elle dit, il faut consentir à vous laisser bander les yeux. » Et Christemo montra un foulard de soie blanche. « Non !» dit Henri, dont toute la puissance se révolta soudain. Et il voulut monter. Le mulâtre fit un signe. La voiture partit. « Oui !» cria de Marsay, furieux de perdre un bonheur qu'il s'était promis. D'ailleurs, il voyait l'impossibilité de capituler avec un esclave dont l'obéissance était aveugle autant que celle d'un bourreau. Puis, était-ce sur cet instrument passif que devait tomber sa colère? Le mulâtre siffla, la voiture revint. Henri monta précipitamment. Déjà, quelques curieux s'amassaient niaisement sur le boulevard. Henri était fort, il voulait se jouer du mulâtre. Lorsque la voiture partit au grand trot, il lui saisit les mains pour s'emparer de lui et pouvoir garder, en domptant son surveillant, l'exercice de ses facultés afin de savoir où il allait. Tentative inutile, cet homme poussa des cris que la fureur faisait expirer dans sa gorge, se dégagea, rejeta de Marsay par une main de fer et le cloua, pour ainsi dire, au fond de la voiture. Puis, de sa main libre, il tira un poignard triangulaire en sifflant. Le cocher entendit le sifflement et s'arrêta. Henri était sans armes, il fut forcé de plier. Il tendit la tête vers le foulard. Ce geste de soumission apaisa Christemio, qui lui banda les yeux avec un respect et un soin qui témoignaient une sorte de vénération pour la personne de l'homme aimé par son idole. Mais avant de prendre cette précaution, il avait serré son poignard avec défiance dans sa poche de côté et se boutonna jusqu'au menton.
« Il m'aurait tué, ce Chinois-là !» se dit de Marsay.
La voiture roula de nouveau rapidement. Il restait une ressource à un jeune homme qui connaissait aussi bien Paris que le connaissait Henri. Pour savoir où il allait, il lui suffisait de se recueillir, de compter, par le nombre des ruisseaux franchis, les rues devant lesquelles l'on passerait sur les boulevards, tant que la voiture continuerait d'aller droit. Il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue latérale la voiture se dirigeait, soit vers la Seine, soit vers les hauteurs de Montmartre, et deviner le nom ou la position de la rue où son guide le ferait arrêter. Mais l'émotion violente que lui avait causée sa lutte, la fureur où le mettait sa dignité compromise, les idées de vengeance auxquelles il se livrait, les suppositions que lui suggérait le soin minutieux que prenait cette fille mystérieuse pour le faire arriver à elle, tout l'empêcha d'avoir cette attention aveugle nécessaire à la concentration de son intelligence et à la parfaite perspicacité du souvenir. Le trajet dura une demi-heure. Quand la voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le pavé. Le mulâtre et le cocher prirent Henri à bras le corps, l'enlevèrent, le mirent sur une espèce de civière et le transportèrent à travers un jardin dont il sentit les fleurs et l'odeur particulière aux arbres et à la verdure. Le silence qui y régnait était si profond qu'il put distinguer les bruits que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles humides. Les deux hommes le montèrent dans un escalier, le firent lever, le conduisirent à travers plusieurs pièces en le guidant par les mains et le laissèrent dans une chambre dont l'atmosphère était parfumée et dont il sentit sous ses pieds le tapis épais. Une main de femme le poussa sur un divan et lui dénoua le foulard. Henri vit Paquita devant lui, mais Paquita dans sa gloire de femme voluptueuse. La moitié du boudoir où se trouvait Henri décrivait une ligne circulaire, mollement gracieuse, qui s'opposait à l'autre partie parfaitement carrée, au milieu de laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or. Il était entré par une porte latérale qui cachait une riche portière en tapisserie et qui faisait face à une fenêtre. Le fer à cheval était orné d'un véritable divan turc, c'est-à-dire un matelas posé par terre, mais un matelas large, comme un lit, un divan de 50 pieds de tour en cachemire blanc, relevé par des bouffettes en soie noire et ponceau, disposé en losange. Le dossier de cet immense lit s'élevait de plusieurs pouces au-dessus de nombreux coussins qui l'enrichissaient encore par le goût de leur agrément. Ce boudoir était tendu d'une étoffe rouge sur laquelle était posée une mousseline des Indes cannelée comme l'est une colonie corinthienne par des tuyaux alternativement creux et ronds, arrêtés en haut et en bas par une bande d'étoffe couleur ponceau sur laquelle étaient dessinées des arabesques noires. Sous la mousseline, le ponceau devenait rose, couleur amoureuse qui répétait les rideaux de la fenêtre qui étaient en mousseline des Indes doublé de taffetas rose et orné de franges ponceaux mélangées de noir. 6 bras en vermeil, supportant chacune des 2 bougies, étaient attachés sur la tenture à d'égales distances pour éclairer le divan. Le plafond, au milieu duquel pendait un lustre en vermeil mat, étincelait de blancheur, et la corniche était dorée. Le tapis ressemblait à un châle d'Orient. Il en offrait les dessins et rappelait la poésie de la Perse, où des mains d'esclaves l'avaient travaillé. Les meubles étaient couverts en cachemire blanc, rehaussés par des agréments noirs et ponceaux. La pendule, les candélabres, tout était en marbre blanc et or. La seule table qu'il y eut mis avait un cachemire pour tapis. D'élégantes jardinières contenaient des roses de toutes les espèces, des fleurs, ou blanches ou rouges. Enfin, le moindre détail semblait avoir été l'objet d'un soin pris avec amour. Jamais la richesse ne s'était plus coquettement cachée pour devenir de l'élégance, pour exprimer la grâce, pour inspirer la volupté. Là, tout aurait réchauffé l'être le plus froid. Les chatoiements de la teinture, dont la couleur changeait suivant la direction du regard, ou toute blanche, ou toute rose, s'accordaient avec les effets de la lumière qui s'infusaient dans les diaphanes tuyaux de la mousseline, en produisant de nuageuses apparences.
L'âme a je ne sais quel attachement pour le blanc.
L'amour se plaît dans le rouge, et l'or flatte les passions. Il a la puissance de réaliser leurs fantaisies. Ainsi, tout ce que l'homme a de vague et de mystérieux en lui-même, toutes ses affinités inexpliquées, se trouvaient caressées dans leur sympathie involontaire. Il y avait dans cette harmonie parfaite un concert de couleurs auquel l'âme répondait par des idées voluptueuses, indécises, flottantes. Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs, apparut à Henri agenouillé devant lui, l'odorant comme le dieu de ce temple où il avait daigné venir. Quoique de Marsay eût l'habitude de voir les recherches du luxe parisien, il fut surpris à l'aspect de cette coquille semblable à celle où naquit Vénus. Soit effet du contraste entre les ténèbres d'où il sortait et la lumière qui baignait son âme, soit par une comparaison rapidement faite entre cette scène et celle de la première entrevue. Il éprouva une de ces sensations délicates qui donnent la vraie poésie. En apercevant au milieu de ce réduit éclos par une baguette d'une fée, le chef-d'œuvre de la création, cette fille dont le teint chaudement coloré, dont la peau douce mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d'amour, étincelait comme si elle eût réfléchi les rayons des lumières et des couleurs. Sa colère, ses désirs de vengeance, sa vanité blessée, tout tomba. Comme un aigle qui fond sur sa proie, il la prit à plein corps, l'assit sur ses genoux et sentit avec une indicible ivresse la voluptueuse pression de cette fille dont les beautés si grassement développées l'enveloppèrent doucement.
« Viens, Paquita, » dit-il à voix basse. « Parle, parle sans crainte, » lui dit-elle. « Cette retraite a été construite pour l'amour. Aucun son ne s'en échappe, tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée. Quelque fort que soit des cris, il ne saurait être entendu au-delà de cette enceinte. On y peut assassiner quelqu'un. Ses plaintes y seraient vaines, comme s'il était au milieu du grand désert. »
Qui donc a si bien construit la jalousie et ses besoins ?
Ne me questionne jamais là-dessus, répondit-elle en défaisant avec une incroyable gentillesse de geste la cravate du jeune homme, sans doute pour en bien voir le col.
Oui, voilà ce cou que j'aime tant, dit-elle. Veux-tu me plaire ?
Cette interrogation, que l'accent rendait presque lascive, tira de Marsay de la rêverie où l'avait plongée la despotique réponse par laquelle Paquita lui avait interdit toute recherche sur l'être inconnu qui planait comme une ombre au-dessus d'eux.
Et si je voulais savoir qui règne ici ?
Paquita le regarda en tremblant.
Ce n'est donc pas moi, dit-il en se levant et se débarrassant de cette fille qui tomba la tête en arrière. Je veux être seul là où je suis.
Frappant, frappant, dit la pauvre esclave en proie à la terreur.
« Pour qui me prends-tu donc ? Répondras-tu ? » Paquita se leva doucement, les yeux en pleurs. Alla prendre dans un des deux meubles d'ébène un poignard et l'offrit à Henri par un geste de soumission qui aurait attendri un tigre.
« Donne-moi une fête, comme en donnent les hommes quand ils aiment, » dit-elle, « et pendant que je dormirai, tue-moi, car je ne saurais te répondre. Écoute, je suis attaché comme un pauvre animal à son piquet. Je suis étonné d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare. Enivre-moi, puis tue-moi.
Oh, non, non, dit-elle en joignant les mains, ne me tue pas, j'aime la vie. La vie est si belle pour moi. Je suis esclave, je suis reine aussi. Je pourrais t'abuser par des paroles, te dire que je n'aime que toi, te le prouver, profiter de mon empire momentané pour te dire. Prends-moi comme on goûte en passant le parfum d'une fleur dans le jardin d'un roi. Puis, après avoir déployé l'éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir, après avoir désaltéré ma soif, je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait et qui a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice.
un puits plein de chaux qui s'allumerait pour te consumer sans qu'on retrouvât une parcelle de ton être. Tu resterais dans mon cœur, à moi pour toujours. »
Henri regarda cette fille sans trembler, et ce regard sans peur la combla de joie.
« Non, je ne le ferai pas. Tu n'es pas tombée ici dans un piège, mais dans un cœur de femme qui t'adore, et c'est moi qui serai jetée dans le puits. »
« Tout cela me paraît prodigieusement drôle, » lui dit de Marsay en l'examinant. « Mais tu me parais une bonne fille, une nature bizarre. Tu es, foi d'honnête homme, une charade vivante dont le mot me semble bien difficile à trouver. »
Paquita ne comprit rien à ce que disait le jeune homme. Elle le regarda doucement en ouvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être bêtes, tant il s'y peignait de volupté.
« Tiens, mon amour, »
dit-elle en revenant à sa première idée,
« veux-tu me plaire ?»«
Je ferai tout ce que tu voudras, et même ce que tu ne voudras pas, » répondit en riant de Marsay, qui retrouva son aisance de fat. En prenant la résolution de se laisser aller au cours de sa bonne fortune, sans regarder ni en arrière, ni en avant. Peut-être comptait-il sur sa puissance et sur son savoir-faire d'homme à bonne fortune pour dominer quelques heures plus tard cette fille et en apprendre tous les secrets.
« Eh bien, lui dit-elle, laisse-moi t'arranger à mon goût. »«
Mets-moi donc à ton goût, » dit Henri.
Paquita, joyeuse, alla prendre dans un des deux meubles une robe de velours rouge dont elle habilla de Marsay. Puis elle le coiffa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un châle en se livrant à ses folies, faites avec une innocence d'enfant. Elle riait d'un rire convulsif et ressemblait à un oiseau battant des ailes, mais elle ne voyait rien au-delà. S'il est impossible de peindre les délices inouïs que rencontrèrent ces deux belles créatures faites par le ciel dans un moment où il était en joie, il est peut-être nécessaire de traduire métaphysiquement les impressions extraordinaires et presque fantastiques du jeune homme. Ce que les gens qui se trouvaient dans la situation sociale où était de Marsay et qui vivent comme ils vivaient savent le mieux reconnaître est l'innocence d'une fille. Mais, chose étrange, si la fille aux yeux d'or était vierge, elle n'était certes pas innocente. L'union si bizarre du mystérieux et du réel, de l'ombre et de la lumière, de l'horrible et du beau, du plaisir et du danger, du paradis et de l'enfer, qui s'étaient déjà rencontrés dans cette aventure, se continuait dans l'être capricieux et sublime dont se jouait de Marsay. Tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie d'essence que l'on nomme l'amour fut dépassé par le trésor que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu'il faisait. Ce fut un poème oriental où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes strophes. Seulement, ni le rythme de Saadi, ni celui de Pindar, n'aurait exprimé l'extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l'erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre.
« Morte, dit-elle, je suis morte, Adolphe, emmène-moi donc au bout de la terre, dans une île où personne ne nous sache. Que notre fuite ne laisse pas de traces, nous serions suivis dans l'enfer. Dieu, voici le jour, sauve-toi. « Te reverrai-je jamais ?»« Oui, demain, je veux te revoir. Dussé-je, pour avoir ce bonheur, donner la mort à tous mes surveillants ?»« À demain !»
Elle le serra dans ses bras par une étreinte où il y avait la terreur de la mort. Puis elle poussa un ressort qui devait répondre à une sonnette et supplia de Marsay de se laisser bander les yeux.
« Et si je ne voulais plus ? Et si je voulais rester ici ?»
« Tu causerais plus promptement ma mort, » dit-elle, « car maintenant je suis sûre de mourir pour toi. »
Henri se laissa faire. Il se rencontre en l'homme qui vient de se gorger de plaisir une pente à l'oubli, je ne sais quelle ingratitude, un désir de liberté, une fantaisie d'aller se promener, une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole. Il se rencontre enfin d'inexplicables sentiments qui le rendent infâme et ignoble.
la certitude de cette affection confuse, mais réelle chez les âmes qui ne sont ni éclairées par cette lumière céleste, ni parfumées de ce baume saint d'où nous vient la pertinacité du sentiment, a dicté sans doute à Rousseau les aventures de Mylord Edouard, par lesquelles sont terminées les lettres de la Nouvelle Héloïse. Si Rousseau s'est évidemment inspiré de l'œuvre de Richardson, il s'en est également éloigné par mille détails qui laissent son monument magnifiquement original. Il l'a recommandé à la postérité par de grandes idées qu'il est difficile de dégager par l'analyse. Quand, dans la jeunesse, on lit cet ouvrage avec le dessein d'y trouver la chaude peinture du plus physique de nos sentiments, tandis que les écrivains sérieux et philosophes n'en emploient jamais les images que comme la conséquence ou la nécessité d'une vaste pensée, et les aventures de Mylord Edouard sont une des idées les plus européennement délicates de cette œuvre. Henri se trouvait donc sous l'empire de ce sentiment confus qui ne connaît pas le véritable amour. Il fallait en quelque sorte le persuasif arrêt des comparaisons et l'attrait irrésistible des souvenirs pour le ramener à une femme. L'amour vrai règne surtout par la mémoire. La femme qui s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du plaisir, ni par la force du sentiment, celle-là peut-elle jamais être aimée? À l'insu d'Henri, Paquita s'était établie chez lui par ces deux moyens. Mais en ce moment, tout entier à la fatigue du bonheur, cette délicieuse mélancolie du corps, il ne pouvait guère s'analyser le cœur en reprenant sur ses lèvres le goût des plus vives voluptés qu'il eût encore égrappées. Il se trouvait sur le boulevard Montmartre au petit jour, regarda stupidement l'équipage qui s'enfuyait, tira deux cigares de sa poche, en alluma un à la lanterne d'une bonne femme qui vendait de l'eau-de-vie et du café aux ouvriers, aux gamins, aux maraîchers, à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour. Puis il s'en alla, fumant son cigare et mettant ses mains dans les poches de son pantalon avec une insouciance vraiment déshonorante. La bonne chose qu'un cigare! Voilà ce dont un homme ne se lassera jamais, se dit-il. Cette fille aux yeux d'or dont raffolait à cette époque toute la jeunesse élégante de Paris, il y songeait à peine. L'idée de la mort exprimée à travers les plaisirs et dont la peur avait à plusieurs reprises rembruni le front de cette belle créature qui tenait aux houris de l'Asie par sa mère, à l'Europe par son éducation, aux tropiques par sa naissance, lui semblait être une de ces tromperies par lesquelles toutes les femmes essaient de se rendre intéressantes. « Elle est de la Havane, du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le Nouveau Monde. » Elle a donc mieux aimé jouer la terreur que de me jeter au nez de la souffrance, de la difficulté, de la coquetterie ou le devoir, comme font les Parisiennes. Par ses yeux d'or, j'ai bien envie de dormir. » Il vit un cabriolet de place qui stationnait au coin de Frascati en attendant quelques joueurs. Il le réveilla, se fit conduire chez lui, se coucha, et s'endormit du sommeil des mauvais sujets, lequel, par une bizarrerie dont aucun chansonnier n'a encore tiré parti, se trouvait être aussi profond que celui de l'innocence. Peut-être est-ce un effet de cet axiome proverbial? Les extrêmes se touchent.